J'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu,
premier chapitre,
premier verset, jusqu'au verset 17. Matthieu 1, verset 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérak de Tamar. Pérets eut Hetzron. Hetzron eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abija. Abija eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotham. Jotham eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hachim. Hachim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Si j'avais voulu être désagréable, j'aurais demandé à quelqu'un parmi vous de lire ce texte. Mais je me suis entraîné toute la semaine et une partie de cette nuit. Il s'agit d'un texte passionnant. Bien que pour vous, peut-être à première abord, ce ne soit pas hyper passionnant. Mais c'est un texte passionnant et j'aimerais dire faire cinq remarques préliminaires et puis mentionner trois vérités à retenir de ce texte. D'abord, cinq remarques préliminaires et ensuite cinq vérités à retenir. Première remarque, ce texte contient quelques éléments de la généalogie de Jésus. Il ne s'agit pas de tous ses ancêtres. Matthieu a choisi 14, 14 et 14. Quelques éléments de l'arbre généalogique de Jésus. Et vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour les Israélites, les arbres généalogiques étaient de grande importance. Chaque Israélite connaissait sa généalogie depuis de nombreuses générations. Connaître sa généalogie était quelque chose de nécessaire pour les Israélites afin de prouver leur identité, mais aussi afin de donner accès à des droits et à des devoirs dans le pays. Il y a plusieurs généalogies dans la Bible. Matthieu 1, Luc 3, Genèse 5, Genèse 11, 1 Chronique, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 chapitres de généalogie. Mais sachez que très souvent, ces généalogies ne sont pas complètes. Ils sautent parfois de génération pour plusieurs raisons. Il y a aussi des registres généalogiques dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 12, Esdras 2, Néhémie 7, etc., etc. Première remarque donc. Quelques éléments de la généalogie de Jésus. Deuxième remarque, les généalogies étaient très importantes. Si vous habitiez en Israël il y a 2000 ans, et si vous vouliez aller acheter un livre à la FNAC de Jérusalem, place de la République à Jérusalem, eh bien, vous aurez trouvé un livre, et sur la quatrième de couverture, vous aurez vu le nom de l'auteur, fils de, petit-fils de, arrière-petit-fils de, etc. Parce que c'était important de prouver qui on était et de quelle famille on était issu. Les généalogies. D'ailleurs, à tel point, les généalogies étaient importantes que parfois les chrétiens se disputaient de leur arbre généalogique. Les chrétiens d'origine juive à l'époque. Et Paul, quand il écrit à Timothée et à Tite, il avertit les chrétiens de ne pas se disputer au sujet des ancêtres. Il y a des choses beaucoup plus importantes que de parler des noms, des métiers de nos ancêtres. Mais, ceci dit, pour les Israélites, la généalogie était quelque chose d'important. Troisième remarque, si Matthieu nous présente la généalogie au début de son évangile, c'était en partie pour déclarer ou pour décliner l'identité de Jésus. Jésus, qui se disait le Messie, le roi des Juifs. Si Jésus n'était pas juif, ce n'aurait pas valu la peine de discuter avec lui ou de chercher à réfuter ses arguments. Matthieu voulait que tous sachent que Jésus était 100% israélite, 100% juif, 100% humain tout en étant 100% Dieu. Pour employer un vocabulaire franco-français du XXe siècle, Jésus bénéficiait du droit du sol et du droit du sang. Israélite, à 100%. Quatrième remarque. Jésus est présenté d'emblée, dès le verset 1, comme fils de David et fils d'Abraham. Bien sûr, Abraham a vécu avant David. Mais Matthieu souligne d'abord fils de David, c'est-à-dire de famille royale, avec du sang royal dans ses veines. Ce terme « fils de David » est ce qu'on appelle un terme messianique qu'on trouve à de nombreuses fois dans les évangiles. Parfois des gens qui avaient besoin d'une guérison ou d'un miracle appelaient Jésus « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, que je puisse revoir, que je puisse voir. » C'était un terme que souvent les gens ont employé dans les évangiles et aussi Pierre dans une prédication dans les Actes et Paul, au début de Romains 1, il parle de Jésus comme étant le fils de David. En tant que fils de David, Jésus avait le droit de régner en Israël. Il avait le droit de sortir le trône des poussières et d'un placard, si le trône existait encore, pour s'asseoir dessus. Et c'est une raison pour laquelle Hérode avait une peur bleue d'apprendre que le roi des Juifs venait de naître. Dans Matthieu chapitre 2. Il avait droit, le droit d'être roi. Les mages avaient tout compris. Le roi n'avait rien compris. Quelqu'un d'autre qui avait tout compris par rapport à ça, c'était Pilate, qui a osé écrire ce qu'il a écrit et qui a osé dire ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, sur la croix. I-N-R-I. Qu'on voit sur les crucifix à droite et gauche en France. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cinquième remarque. Dans ces généalogies, il y a trois groupes de noms. Matthieu les dit. 14 noms, 14 noms et 14 noms. Et j'aimerais juste dire que les premiers six versets couvrent une période de 1000 ans à peu près. Le deuxième groupe de versets couvre une période de à peu près 430 années et le troisième groupe 570. À peu près 2000 ans d'Abraham jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. De Abraham jusqu'à la monarchie, de la monarchie jusqu'à la chute de la monarchie, et puis de la chute de la monarchie jusqu'au premier Noël, pour résumer autrement. La généalogie de Jésus. 5 remarques préliminaires. Alors, quelles sont les vérités à retenir? Pour moi, la première vérité à retenir dans ce texte, c'est que Dieu est fidèle. Pensez à Abraham. Dieu lui avait promis un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Abraham n'a pas toujours été fidèle envers le Seigneur. Mais Dieu est toujours resté fidèle envers Abraham. Et Abraham, Sarah, ils ont eu Isaac. C'était un miracle. Mais Dieu l'avait promis. Et Dieu a tenu sa promesse. Et dans la promesse de donner un fils à Abraham, il y a plusieurs promesses. Si vous lisez Genèse 12, 15, 17, etc., vous voyez qu'une autre promesse contenue dans cette promesse nous concerne. Parce que Dieu a promis la descendance d'Abraham aussi nombreuse que les étoiles et que les grains de sable. Et si on pouvait compter tous les Israélites qui ont vécu, qui vivent, tous les chrétiens qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui, c'est une foule innombrable. Dieu est fidèle à sa promesse. Pensez aussi à Ruth. Ruth qui se convertit grâce à sa belle-mère, mais malgré l'état spirituel de sa belle-mère, qui était déprimée, rancunière au sujet de Dieu, elle broyait du noir, elle s'habillait en noir, elle voyait tout en noir, et elle en voulait à Dieu. Et malgré ça, Dieu a parlé à Ruth, et Ruth s'est convertie. Et grâce à la fidélité de Dieu, il a sorti Ruth et Naomi et toute la famille de leur grand trou noir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et il voulait agir au sein de sa famille. Pensez aussi aux alliances de Dieu. Dieu a fait une alliance avec Noé. Il est toujours fidèle envers cette alliance, même aujourd'hui. Chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, remerciez Dieu de sa fidélité envers son alliance à Noé dans Genèse 9. Son alliance avec Abraham, son alliance avec David, avec Moïse, etc. Dieu est fidèle quand il fait des promesses dans des alliances. Et en ce qui concerne la nouvelle alliance, on en a parlé tout à l'heure, Dieu est fidèle envers ceux qui croient à la nouvelle alliance, la mort de Jésus pour nos péchés. Alors si Dieu est fidèle, il est fidèle en tout temps. Et sa fidélité devrait nous encourager à lui être fidèle en tout temps. Quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les apparences qu'on voit, on dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais si Dieu est fidèle, ou devrais-je dire, puisque Dieu est fidèle, cela devrait nous encourager à lui être fidèle. Parce qu'il est fidèle pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous motiver, pour nous pardonner, pour nous affermir, etc., etc. Dieu est digne de notre confiance. Et dites-vous bien que si Dieu n'était pas fidèle, nous serions dans une incertitude perpétuelle. Et nous ne serions pas les plus heureux des gens, mais nous serions presque les plus malheureux, parce qu'on ne saurait jamais sur quel pied danser avec Dieu. Mais Dieu, il est fidèle. Deuxième vérité. Ah, mais voilà. Consoler, soutenir, fortifier, motiver, pardonner et pour nous affermir. Deuxième vérité. Dieu est libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est libre. Eh bien, dans la culture du monde de l'Ancien Testament, le rôle de l'aîné dans la famille était primordial. Le rôle de l'aîné avait une place prioritaire et prépondérante dans une famille et dans la vie de la famille. Cependant, Dieu, dans sa liberté, ou si vous préférez, et on a utilisé le mot tout à l'heure, dans sa souveraineté, parfois il passe outre les traditions humaines. Et vous voyez, vous allez voir que dans cette liste, parfois Dieu a choisi non pas l'aîné de la famille, mais un autre membre de la famille pour accomplir sa volonté. La famille d'Abraham, qui était le premier-né dans la famille d'Abraham? Mais qui était l'ancêtre de Jésus? Selon Matthieu 1, Isaac. Dieu n'a pas choisi le premier, mais le deuxième. Il passe outre parfois nos traditions humaines. Les promesses et les bénédictions étaient destinées au cadet, Isaac, non pas à l'aîné Ismaël. Un autre exemple, dans la famille de Jacob, l'aîné, c'était Ruben. Qui était Joseph? Ruben. Qui était l'ancêtre de Jésus? Numéro 4, Judas. Dieu a choisi Judas au lieu de choisir Ruben. Dans la famille de David, David était numéro combien? 8e. Il aurait pu choisir Eliab, l'aîné. Le papa avait choisi Eliab pour être roi. Samuel ne l'a pas choisi parce que Dieu ne l'a pas choisi. Dieu est libre, il est souverain. On parle de la providence de Dieu. J'ai pensé à un autre sujet, le sujet de la guérison. Ézéchias était malade. Le médecin a dit, aucun espoir, tu vas mourir. Dieu est intervenu de façon miraculeuse et Ézéchias était guéri. Vous lisez ça dans Ésaïe 38-39. Et suite à sa guérison, Ézéchias a écrit un cantique. Et ce cantique se trouve dans Gêne l'Éternel. C'est un de mes cantiques préférés d'ailleurs. Je crois qu'il y a 7 couplets dans Gêne l'Éternel. Lui, de sa version, était beaucoup plus courte. En tout cas, Seigneur, par tes bontés, je jouis de la vie. Ce n'est pas le mort, mais c'est le vivant qui va louer ta fidélité. Bref, il a guéri Ézéchias. Par contre, Ozias, qui était lépreux, il est mort, lépreux. Isaac, qui était aveugle, Jésus est venu pour guérir des aveugles. Dieu a guéri des aveugles. Mais Isaac, dans la souveraineté de Dieu, il est mort, aveugle. Dieu a choisi de ne pas les guérir. Alors, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Eh bien, deux choses. Le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. S'il y a un verset biblique à connaître, pas, je ne peux pas dire que c'est celui-là, mais c'est un verset qu'il faut connaître. Le psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Deuxième verset. Ésaïe 55, 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. C'est l'Éternel qui dit cela. Alors, quand on saisit que Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut, et quand on comprend que ses pensées ne sont pas mes pensées, que sa façon de faire n'est pas ma façon de faire, quand on comprend cela, la chose à faire, c'est d'agir comme Job. Et Job, quand il a eu une révélation de Dieu, dans Job 40, il dit, « Seigneur, je me tais. » Je mets ma main, je ne veux plus dire des bêtises. Je mets ma main devant ma bouche. Je me tais devant ta puissance, devant ta souveraineté. Je suis persuadé que si nous n'acceptons pas que Dieu agisse comme bon lui semble, nous n'épanouirons jamais dans la vie chrétienne. Je le répète, je suis persuadé que si je n'accepte pas dans ma vie de famille, que si je n'accepte pas que Dieu agisse comme bon lui semble, eh bien je ne vais jamais m'épanouir, grandir dans ma vie chrétienne. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Il est souverain. Alors, pourquoi donc Dieu a-t-il choisi Isaac au lieu d'Ismaël? Eh bien, parce que ses voix sont au-dessus de nos voix. Et il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Judas et non pas Ruben? C'est parce que ses voix ne sont pas nos voix. Et il est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il a choisi David au lieu d'Eliab? Pourquoi est-ce qu'il a guéri Ézéchias et non pas Ozias? La même réponse. Parce qu'il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ses voix ne sont pas nos voix. Ne limitons pas Dieu à notre façon de voir. Il est bien au-dessus, au-delà de ce qu'on peut voir, dire, penser ou imaginer. Dieu est libre. Il est souverain. Devant les choix de Dieu, devant les voies de Dieu, devant la fidélité de Dieu, mettons notre main sur notre bouche, mettons-nous à genoux pour dire, tu es Dieu, tu es au ciel, tu fais ce que tu veux, et je m'incline devant toi. Dieu est fidèle, Dieu est libre. Et pour terminer, troisième vérité retenue de cette généalogie de Jésus, Dieu est bon. Alors, pour un bon juif au premier siècle, le fait de lire Matthieu 1, il trouverait cette liste de noms choquante. Et un bon juif serait peut-être en colère en lisant cette liste de noms. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des femmes dans cette liste. Les femmes. Pour un bon israélite à l'époque, sa femme était son objet, sa propriété, sa chose presque. Mais Matthieu inclut pas une, pas deux, pas trois, quatre femmes dans cette liste. Et quand on regarde les femmes, on est choqué de constater quelle femme Matthieu a choisi. Bien sûr, ce n'est pas Matthieu qui les a choisis. Hein? Vous savez, il est vrai qu'il y a une prière juive. Et un juif prie très souvent le matin, parmi lesquels il dit, Seigneur, merci car je ne suis pas un gentil, un non-juif, mais merci parce que je ne suis pas né femme. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais prié cette prière, je peux vous le dire. Et c'est enregistré. Quelles sont les femmes mentionnées? Verset 3, Tamar. Tamar, est-ce qu'elle était modèle de croyante? Tamar était la belle-fille de Judas. Judas, donc quatrième fils de Jacob, a eu trois garçons. Er, il s'est marié avec Tamar. Er était tellement méchant que Dieu l'a fait mourir. Onan, deuxième fils, il était obligé de se marier avec sa belle-sœur. J'allais faire une blague, mais je ne vais pas faire une blague, c'est trop sérieux. Et Onan s'est marié avec sa belle-sœur. Onan était tellement méchant que Dieu l'a fait mourir. Numéro 2, rideau. Et puis le troisième était promis en mariage par Judas à sa belle-fille. En tout cas, il y a toute une histoire dans Genèse, je crois que c'est Genèse 38. En tout cas, Tamar couche avec son beau-père. Elle devient prostituée, elle est incestueuse, elle couche avec son beau-père et elle a des jumeaux. Ce n'est pas les premiers jumeaux dans la Bible, les premiers, je crois bien, c'est Jacob et Ésaü. Mais elle a deux jumeaux et les noms sont donnés ici, Pérez et Zérak de Tamar. Et c'est Pérez qui était ancêtre de Jésus. Deuxième femme, verset 5, Rahab. Quel était le métier de Rahab? Qu'est-ce qu'on dit, le plus vieux métier du monde? Alors, je ne peux pas prouver ou vérifier ça. Mais elle tenait une maison close à Jéricho. Mais cette femme-là a cru en l'Éternel. Elle a changé de vie. Et elle a cru et en voit le fruit. Les œuvres ou la preuve de sa foi. Parce qu'elle a quitté Jéricho, elle a quitté son métier pour faire partie du peuple de Dieu. En vocabulaire néo-testamentaire, on pourrait dire elle a été lavée par le sang de l'agneau. Elle est devenue croyante néo-testamentaire. Et elle était aussi ancêtre de Jésus. Ce qui veut dire que peu importe notre passé, ce qui compte, c'est notre présent et notre avenir. Et si quelqu'un vous raconte tout son passé, eh bien, Dieu peut tout changer, tout pardonner, tout gommer. Ce qui compte, ce n'est pas mon passé, mais mon présent et mon avenir. Ce n'est pas d'où je viens qui compte, c'est où je vais. Est-ce qu'on va là-haut? Peu importe d'où on vient, on peut aller là-haut avec le Seigneur. Rahab. Ensuite, Ruth, verset 5. Quelqu'un comme Rahab qui n'était pas d'origine juive, mais quelqu'un qui s'est converti, comme je disais tout à l'heure, malgré le contre-témoignage de sa belle-mère. On a étudié ce livre de Ruth pendant plusieurs semaines en 2016. Le livre de Ruth est tout petit, quatre chapitres. Le premier mot propre ou non propre dans le livre de Ruth, c'est le mot Bethléem. Le dernier nom propre dans le livre de Ruth, c'est David. Comme quoi, Ruth est un livre messianique. Ça commence avec Bethléem, ça finit avec David. Et Ruth était donc ancêtre de Jésus-Christ. Et puis, j'allais dire la cerise sur le gâteau, verset 6. Une femme qui n'a pas de prénom. Son nom n'est pas donné. Et si vous connaissez l'Ancien Testament, vous savez comment s'appelait la femme d'Uri. C'est dit comment? Bathsheba. Bathsheba. La femme d'Uri. On dirait que ça va de mal en pire dans cette liste. Elle était la femme d'Uri quand elle a commis l'adultère avec David. David était marié quand il a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Nous n'allons pas jeter la pierre, mais il est intéressant de remarquer qu'il y a plusieurs rois nommés dans cette liste. Mais le seul roi qui est appelé roi, verset 6, c'est David. Il aurait pu dire, Matthieu aurait pu dire, le roi Ézéchias, le roi Ozias, le roi Jotham, le roi, etc., etc. Mais il n'appelle que David le roi. Est-ce que c'était pour souligner la gravité de ce qu'il a fait? Peu importe. David a commis l'adultère. Nous avons le récit dans 2 Samuel, mais nous avons aussi le récit de sa confession, de sa repentance au psaume 51. La gravité de son péché, mais la réalité de sa confession et de son pardon. 4 femmes nommées ici pour montrer que Dieu fait grâce, pour prouver que Dieu est bon. Non pas pour nous encourager à vivre n'importe comment pour avoir la grâce, mais pour nous montrer que peu importe que nous ayons fait des choses terribles, honteuses, Dieu est toujours prêt à faire grâce et à pardonner. Parce que Dieu est bon. Dieu peut toujours pardonner, laver, purifier un cœur et un corps souillés par tout un tas de choses. Parce qu'il est bon, parce qu'il fait grâce. Et heureusement que même aujourd'hui, des gens d'origine païenne deviennent chrétiens. Parce que Dieu fait grâce. Alors je conclue. bientôt, dans 10 jours, si je compte bien, ce sera Noël, dans 9 jours. Nous n'allons peut-être pas tous passer un joyeux Noël à cause des circonstances, à cause des épreuves, à cause des douleurs, à cause des difficultés, à cause de ce qui va nous arriver en janvier au boulot, etc. Il y aura peut-être des préoccupations, c'est sûr. Mais je vous encourage que, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit votre situation, dites-vous bien à Noël, et pas que à Noël, mais tous les jours, Dieu est fidèle. Dieu est libre ou souverain. Et Dieu, il est bon. Et rappelez-vous et dites-vous bien constamment que c'est vrai et remerciez Dieu tous les jours parce qu'il est fidèle, parce qu'il est souverain et parce qu'il est bon. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions parce que tu es fidèle, tu es souverain et tu es bon. Nous te prions de nous aider à accepter que tu es au ciel et que tu fais ce que tu veux. Pas toujours ce que je veux, mais merci car tu vois le début de la fin. Tu vois toutes choses et tu sais le pourquoi et le comment de toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier devant ta main puissante et à nous réjouir de ce que tu es fidèle, souverain et bon. Et lorsque le diable veut nous faire croire le contraire, aide-nous à résister au diable pour qu'il fuit loin de nous et aide-nous à nous approcher de toi. Conduis-nous en ce jour. Bénis le groupe de jeunes cet après-midi. Merci pour chacun qui est là. Et merci aussi pour la fête de Noël. Nous prions pour que cette salle soit remplie et que des gens puissent partir à la fin de la fête de Noël, sachant que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es souverain et que tu les aimes. Nous nous confions en toi, dans le beau nom de ton Fils Jésus, le Messie, Jésus le Sauveur. Amen.